France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Une grande carcasse, tout en jambes, bouffon, sarcastique, sautillant, tragique, misanthrope, grand amateur de femmes, paraît-il, et de collections érotiques, un immense acteur, au cinéma, au théâtre, une énigme, selon Jean Cocteau, et puis bien sûr une voix. Le sujet des mardis du cinéma qui suit, diffusé pour la première fois sur France Culture le 9 février 1993, c'est Michel Simon.
Mardi du cinéma, Michel Simon ou les jubilations d'un anarchiste, par Pascal Lismonde et Josette Collin.
Je suis un vieux cabotin qui finit sa petite vie dans un hospice à Saint-Jean-la-Rivière. Je sais bien, il n'y a pas de honte à ça, mais j'ai toujours été un peu menteur. Non pas par méchanceté, mais pour que les choses soient un peu plus jolies.
Primitif et pervers, clochard céleste ou bourgeois inquiétant, Michel Simon est né à Genève le 18 avril 1895 sous le signe effervescent du bélier. Et il y croyait.
Vous savez que j'ai appris aussi que les béliers avaient, mais ça je l'aurais appris en vous regardant, une nature hors de toute banalité. Avouez que c'est votre vrai portrait. Et une nature excessive en bien des points. Ah, c'est clair, c'est écrit. Vous n'avez pas une nature excessive ?
Excessive, oui.
Vous trouvez une nature mesurée ?
Pas du tout.
N'est-ce pas ?
Pleine de désordre et de contradictions. D'accord.
Vous êtes musicien ?
Non.
Dommage.
Oui.
Moi, je suis compositeur.
Ah,
mais je suis l'auteur de la chanson. Di-la-di-da-don, la-di-la-long, da-da-der, da-da-der. Vous connaissez ?
Non, excusez-moi.
Il est vrai que comme je chante faux, vous ne pouvez pas reconnaître l'air.
Mais ça ne vous gêne pas dans votre métier ?
Je chante faux, mais j'entends juste.
C'est parce que je t'aime, que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours.
Est-ce qu'au moment de Jean de la Lune, vous avez pensé au succès fantastique qu'aurait Clo-Clo ?
Pas du tout. J'ai été très surpris. Puis alors, surtout, que ce personnage ait conquis un public universel. On a parlé de Clo-Clo jusqu'à Hollywood, n'est-ce pas ? Ce personnage a fait le tour du monde.
C'est parce que je t'aime, que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours.
C'est charmant, il y a des couplets comme ça. D'ailleurs, j'adore les chansons.
Écoutez, monsieur...
Mais qu'est-ce que vous avez sur le nez ? Ah, oh, c'est un bouton. C'est embêtant, ça, les boutons, surtout quand ce sont des furoncles. Chaussin, tenez, Chaussin avait un furoncle comme ça, la fesse. Aucun rapport avec votre bouton, naturellement, mais ce qu'il a pu souffrir.
Ah,
il ne pouvait plus s'asseoir. Moi, je peux.
Comment ?
Je dis, je peux m'asseoir.
Ah oui, mais je vous en prie, asseyez-vous.
J'étais venu à Paris pour devenir aviateur, et on m'avait fait à Issy-les-Moulineaux un stage d'un mois et demi pour avoir le brevet. Et ma mère, absolument désolée à l'idée que j'allais me casser la figure, ce qui me serait certainement arrivé parce que j'étais assez risque-tout à cette époque, m'a supplié de n'en rien faire. Et je suis arrivé à Paris, décidé à me faire un chemin ailleurs, sans savoir exactement quoi. Et j'ai pensé qu'il fallait, dans ce cas-là, m'en remettre au destin. Alors j'ai pris le métro, la gare de Lyon, et quand j'ai senti qu'il fallait descendre, que c'était le moment de descendre, je suis descendu à la station de la Porte Saint-Martin. Et je suis descendu dans un hôtel non loin de la station du métro, qui était l'hôtel de la Renaissance. Et là, j'ai vécu un an au milieu d'un monde extraordinaire, un monde interlope, vivant en dehors des lois C'était une espèce de savane. Une savane où tous les instincts pouvaient se livrer, où les gens étaient éperdus de liberté et prenaient leurs risques. De temps en temps, un finissait sur l'échafaud, l'autre en prison, etc., etc. Et j'ai connu des hommes à cette époque vraiment extraordinaires, courageux, nobles, désintéressés, un peu fous, évidemment. Oui, c'était au moment de l'affaire Bonneau, de l'affaire des louis d'or en cristal qui se cassaient quand on les faisait sonner un peu trop bruyamment sur le zinc des comptoirs. J'ai connu là des hommes vraiment extraordinaires. C'était des anarchistes, des illégalistes, avec des théories un peu confuses. Enfin, celles que défendait avec le plus d'âpreté mon ami Sébastien Le Goff, c'était la théorie de la reprise individuelle. Et alors, Sébastien Le Goff était mon mentor et mon conseiller. Moi, je voulais faire de la danse acrobatique. J'en ai fait, du reste. J'en ai fait, j'ai débuté à Montreuil-sous-Bois, en 1912. Et il me disait, avec tes idioties, il employait un autre mot, évidemment, je ne peux pas dire au micro. Il me disait, avec tes machins, tu vas finir par te casser la gueule. Il dit, fais comme moi. Moi, j'ai deux frangines. Je m'en fais pas. Seulement, minute papillon, j'ai ma carte de forain. Avec une carte de forain, t'es toujours pépère, t'es toujours peinard. Je sors ma carte de forain, et puis voilà, et je prends mes distances. Et mieux que ça, je vais m'habiller à Réaumur, où vont se fringuer les poulets. Et j'ai l'air d'un poulet, et on me fout la paix, et la vie est belle. Qu'est-ce que tu vas faire, des sauts périlleux en avant et en arrière? Ça va te conduire à quoi, tout ça? Et il m'a donné des conseils, comme ça que je n'ai pas suivi, du reste. J'étais vaniteux, je pensais que j'allais arriver par mes propres moyens. Et je suis arrivé par mes propres moyens, mais ce fut long.
Claude Gauteur.
C'est un homme qui a d'abord commencé au théâtre. Hein, il a donc joué chez les Pitoèves, chez Jouvet, etc. Et c'est même fondamental pour comprendre ce qu'il a fait au cinéma avant, parce que tous les grands rôles qu'il a tenus au cinéma, il les avait déjà essayés en quelque sorte, il les avait déjà joués sur scène, ou tout le monde, je ne dis pas les rôles exactement, mais les emplois par exemple. Hein, il avait un certain nombre d'emplois, il les avait déjà testés sur scène, il les avait déjà mis à l'épreuve du public, il les a déjà mis au point, affinés et tout.
Je me souviens encore de son fin profil. Lorsqu'un soir au bal, nous fîmes connaissance, elle était charmante et mince comme un fil. De grands yeux rêveurs et plein d'innocence, tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence.
Alors, en 1934, vous faites une nouvelle rencontre formidable, c'est Michel Simon. Michel Simon, Bouffe parisienne dans Le Bonheur
Médard. Dans Le Bonheur Médard. Oui, c'est la première fois, j'avais admiré, vu, surtout au gymnase, il était au gymnase à ce moment-là, je l'avais vu au gymnase et dans toutes ses créations. On ne pouvait pas ne pas l'avoir vu, ce type-là. C'est obligatoire. Enfin, évidemment, la gueule avait son importance avec lui. Et alors il était là, il faisait mon mari. Et il avait repris des airs de Fraxen peut-être. Puis alors d'autres airs, oui. Il était remarquable là-dedans.
On sympathisait comme un cœur de terre. Et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il y en a pas deux comme ça.
C'est un film finalement très médiatique. Il s'est aperçu que le cinéma était important pour lui et c'était l'occasion de se faire davantage connaître.
Jean-Marc Loubier.
Au point de s'investir financièrement. De magouiller, comme on dirait aujourd'hui, pour trouver des rôles. Alors c'est des petits rôles au début, et très très rapidement, Michel Simon a des rôles importants.
Mais Jean de la Lune est repris au cinéma, mais pour autant, ça n'est pas son premier rôle au cinéma, premier rôle au cinéma, c'est avec Marcel L'Herbier.
Oui, c'est 1925, c'est Jeanne d'Arc. Ensuite, il y a eu La vocation d'André Carrel, de Jean Chou, qui est un film suisse. Et puis alors, véritablement, si vous voulez...
Il y a surtout Feu Mathias Pascal, avec le premier film avec
Feu Mathias Pascal, oui, mais il fait rien dedans. Il passe, si j'ose dire. On le remarque à peine, il faut vraiment savoir qu'il est dedans. Il n'est même pas crédité au générique. Et il faut quand même attendre le début des années 30 pour que Michel Simon éclate au cinéma. Et il éclate en s'impliquant totalement. En ce sens que il ne se satisfait pas d'être comédien, il devient également producteur. Alors il devient producteur avec une rencontre exceptionnelle, qui est celle de Jean Renoir. Puisque pour Jean de la Lune, c'est Michel Simon qui produit le film. Et puis je dirais que là où Michel Simon s'est investi le plus, c'est dans un film qui malheureusement à l'époque n'a pas connu de grand succès, c'est La Talente. Autre grande rencontre de Michel Simon rencontrant Jean Vigo. Jean Vigo étant un personnage qui ne pouvait que plaire à Michel Simon. Jean Vigo, d'abord c'est un anarchiste, c'est un homme qui a été censuré, il avait fait zéro de conduite avant, et tout ce qui peut avoir de connotation de censure pour Michel Simon a fatalement son amitié. Donc quand Jean Vigo est venu le voir dans son théâtre, il lui a dit, écoutez, voilà, je suis en train de monter...
De révolte contre la censure.
Oui, de révolte contre la censure. Je suis en train de monter un film, j'ai une vague histoire, c'est un roman qui a été déposé à la Société des auteurs, c'est pas très très bon, mais enfin, j'ai besoin de vous, j'ai absolument besoin de vous. Alors, en plus, dire à Michel Simon, j'ai besoin de vous, c'est gagné d'avance. Et Michel Simon s'est pris d'amitié pour Vigo et il a financé le film. C'est extraordinaire la manière dont ce film a pu se fabriquer, retrouvant des amis et tournant pour rien parce qu'il n'a pas été payé du tout. Et quand le film est sorti en 34, qu'il a été d'abord amputé d'une bonne vingtaine de minutes, qu'on a changé le titre pour devenir Le Chaland qui passe, parce qu'à l'époque il y avait une chanson célèbre qui s'appelait comme ça et c'était plus vendeur. Michel Simon a pesté, a quasiment tout cassé lorsqu'il a appris ça, d'autant plus que Jean Vigo était mort.
Vous en connaissez des métiers,
Si j'en connais des métiers. Regardez ces mains. Et pas tout ce qu'elles ont fait. Mes mains soient à Shanghai, en montant, là.
Allez, père, je ne fais pas de bêtises.
J'en ai pas, patronne. Pas mauvais, ce nom. Quand on me cherche, on me trouve.
Ah, oh, ça va, père Jules.
Oh, ben.
Et puisque vous êtes si fort, partez dans cette chute.
Passez cette jupe.
Mais oui, vous allez me servir de mannequin pour l'arrondi.
Pour l'arrondi? Pour l'arrondi, alors. Ça me va. Comment ça se met, cette affaire?
Allez, ça suffit. Restez tranquille.
Je peux pas le mettre. Comment ça se met, tout là?
Comment? Vous ne pouvez pas la boutonner?
Pour l'arrondi.
Mais rentrez ce ventre. Vous avez la taille fine,
Ça ne pas. Ça ne pas, maintenant. Ah, je n'en parle pas, maintenant. Allez.
C'est là où il révèle sa vraie identité, je pense. Et aussi son plaisir à pousser les scènes et les situations jusqu'à presque l'incohérence.
Vincent Austria.
Je pense que dans un certain sens, il a une part d'enfance en lui qui est mêlée à une sorte de brutalité plus ou moins douce et qui fait que peut-être que pour un enfant, ça semble presque naturel, mais pour un adulte, ça choque en quelque sorte. Donc il joue ce père Jules qui est un marinier bourru... qui est aussi, dans un sens, un faire-valoir du couple romantique qui sont le patron du bateau et sa femme. Et dans un sens, il est aussi amoureux de la femme du marinier, puisque au début, il y a une scène de mariage et il commence les relations avec ce nouveau couple en offrant un bouquet à la mariée de manière tout à fait guillerette et presque romantique. Mais par la suite, il révèle aussi toute une propension à se détruire ou au moins à se ravaler à un rang inférieur par déception. Même à un moment, je crois qu'il se... Parce qu'il est vexé ou déçu, il va se faire tondre les cheveux. Enfin, il y a plein de cas comme ça dans ce film. Disons que d'une part, il charrie tout un exotisme qui est dû à son passé de marin, qui donc se retrouve sur son corps avec ses tatouages, et notamment il y a une scène où il montre son tatouage sur le ventre qui correspond à un visage et la bouche à un nombril où il se met une cigarette. Et ça va jusqu'à... Moi, je trouve que ça atteint des extrêmes proches de l'art brut, quoi. Sa cabine, c'est un tableau d'art brut. D'autre part, il représente un autre exotisme en étant une brute dans un monde plus ou moins civilisé. Et c'est aussi en employant des choses de son passé, comme l'accent suisse poussé à l'extrême... Il se distingue comme un être à part dans ce film.
Allons jouer de l'accordéon. Hein. Vous avez de beaux cheveux. Hein?
Vous aussi, Père Jules.
Ah oui,
vous avez de beaux cheveux.
Ils sont pas si beaux que les vôtres.
Attendez.
Hein?
Je vais vous faire l'arrêt.
Oh, ben, vous êtes trop gentil. Ça me chatouille. Hein? Pour t'être habitué à des douceurs.
À un moment, il a un tourne-disque, enfin très primitif, c'est plutôt un gramophone, et il s'amuse à passer son doigt sur le disque. Et soudain, on entend de la musique, et il le refait à nouveau. Et alors, il est vraiment intrigué comme un enfant. Au bout d'un moment, il s'aperçoit que derrière lui, il y avait le mousse du bateau qui synchronisait ses mouvements avec son accordéon. Ça pourrait sembler quelque chose d'un peu ridicule pour un film récent, mais là, ça dévoile une vérité que peu d'acteurs peuvent jouer. Il peut aussi bien aller jusqu'au bout du ridicule et du cabotinage sans que ça paraisse quelque chose de forcé et de lourd. Chez lui, ça peut sembler une fantaisie de son personnage comme une autre. On peut très bien imaginer des personnages comme ça dans la réalité, sauf qu'ils ne sont jamais acteurs.
Eh, dis donc, t'as pas vu mon cleps? Eh, un chien noir avec des poils longs comme ça, c'est du passé pervers.
Les gens qui font du naturalisme oublient que ça n'a de valeur que si c'est poétique. Alors, un personnage comme Boudu, créé par Michel Simon, c'est un personnage conçu par un poète. Le poète est en lui, n'est-ce pas? Et alors, il y a quelque chose dans les gestes, dans l'attitude, etc., qui constamment nous dégage des petites saloperies quotidiennes de la vie. Ça devient un personnage extraordinaire, ça devient un personnage de poète. Boudu se jette à l'eau.
Oui.
Et Michel Simon n'est pas doublé. Il s'est jeté à l'eau lui-même.
Ah bon ?
Ah mais comment ?
La scène était peut-être moins sale qu'aujourd'hui.
Oui, elle n'était pas très propre. Et alors, l'Estinguet le sauve, le met dans une petite barque, on l'amène, tout le quartier est là, tout Paris est là. Parce que, étant donné que des gens qui se jettent à l'eau, c'est très intéressant, nous avions une figuration de milliers de personnes que nous n'avions pas besoin de payer. C'était trop content de regarder cette aventure. Heureux, espérant que le gars allait se noyer. De sorte qu'on a un vrai sauvetage et que ces pages-là sont remplacées par le vrai sauvetage.
C'est ça. Bon, alors ensuite, on le frictionne sacrément, et puis voilà. Alors là, on pourrait peut-être vous demander de reprendre à partir de là, parce que nous allons faire la connaissance de Boudu.
Bon, alors Boudu, Madame Lestingois dit, il ouvre les yeux. Lestingois, plein de pitié, dit, eh bien, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas ?
Est-ce que je suis mort ?
Vous êtes vivant, bien vivant. Ça, c'est un voisin qui dit ça. Un voisin qui est un être ridicule, d'ailleurs, et qui se met constamment en avant. Et Madame Lestingois, désignant son mari, dit « Voilà celui à qui vous devez la vie. » Lestingois lui dit « Pas ça, il va croire que je suis son père. » Il a l'air de m'en vouloir. Monsieur Godin, c'est pas encore très bien où il en est. Monsieur Godin, c'est un autre voisin.
C'est ça.
Madame Lestingois, vite, Anne-Marie, épongez partout, parce que c'est l'eau dégouline, n'est-ce pas, il est en train de transformer la boutique en un lac.
Alors, tout est à recommencer.
Qu'est-ce qu'il dit ? Dit Madame Lestingois. Monsieur Godin, il est peut-être fou. Monsieur Vigour, où allez-vous ? Boudu.
Je vais me noyer.
Il s'est levé et il marche vers la porte avec une espèce de pas chancelant, avec l'idée fixe. Mais alors on voit dans sa tête l'idée fixe qui le réattire vers la scène. Encore ? Dit Madame Lestingois. Monsieur Godin, il dit tiens, Lestingois, mais je vous ai tiré de l'eau, malheureux. Vous n'allez pas y retourner.
Pourquoi tu m'as tiré de l'eau ?
Pour vous sauver.
C'est pour me sauver que je m'y étais jeté.
Oh, vous êtes trop jeune pour faire un suicide.
Je suis dégoûté de la vie.
Ayez du courage, on va vous secourir. Vous étiez sans personne, sans doute. Eh bien, nous allons trouver un moyen de vous venir en aide. N'est-ce pas, messieurs ? En nous unissant, en nous cotisant. Naturellement, sur ces entrefaites, tous les voisins foutent le camp.
Exactement, bien sûr.
Et
alors, ils s'en vont tous, et Boudu dit.
Je m'en vais aussi.
Voulez-vous aller ?
Je vais me noyer.
Vous n'avez qu'une idée, mais elle est fixe.
Sans vous, je serai tranquille maintenant.
Il est vrai.
Je ne sais même pas si je vais avoir le courage de repiquer.
Madame Lestingois, se tuer est une lâcheté. C'est vivre qui est courageux.
Ah oui.
Lestingois, puisque nous avons fait connaissance, je ne veux pas vous abandonner. Vous n'êtes plus seul dans l'existence. Comment vous appelez-vous ?
Boudu.
Comment ?
Boudu !
Eh bien, passez d'abord là derrière. Monsieur Boudu, déshabillez-vous et mettez ces vêtements.
1966, Jean Renoir et Michel Simon lisaient les dialogues de Boudu sauvé des eaux.
Là, votre chemise. Anne-Marie, va donc vite me chercher une chemise de nuit et des chaussettes dans l'armoire. Hein?
Oui, monsieur.
Elle est gentille, cette petite là, c'est votre fille.
Non, restez là, non, asseyez-vous. Je tire votre pantalon.
On m'a bien enrhumé maintenant.
C'est bien votre faute.
Eh non, c'est sa faute à hein, lui.
Il a raison. Vous allez baisser.
Ah, j'ai faim.
On va vous donner un bon potage bien chaud avec deux œufs pochés, hein?
Oh, j'aime pas le potage.
Bien, bien, bien.
Les œufs, ça me fait mal à l'estomac.
Bon, mais qu'est-ce qui vous plairait?
Des sardines à l'huile avec une tartine de pain.
On va vous en donner. Vous allez en avoir. Attendez là, voyez, je vous explique un peu.
Attendez. Il faudrait qu'elle s'en aille, la dame.
Moi?
Oui, vous.
Vous voulez que je sorte?
Oui, plus vite que ça.
Oh.
Bah c'est lui, voyons, c'est un malheureux, hein.
Et puis va lui ouvrir une boîte de sardines.
Je lui tournais le dos.
Ah oui, bah même de dos, tu me gênes, quoi.
Elle me gêne.
Eh bien.
Même de dos, elle me gêne.
Oui, ben oui.
Cette rencontre, Jean Renoir, est, je dirais, magique. Même si elle a eu des hauts et des bas. Surtout au début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces deux hommes, Renoir et Simon, ne pouvaient que s'entendre. Ils n'ont pas le même caractère, mais ils sont fous, tous les deux. Ils sont fous. Jean Renoir est venu tout à fait par hasard au cinéma, quand on sait pourquoi il est venu. Il est venu au cinéma pour l'amour de sa femme, qui était un modèle, et il voulait qu'on le voie la beauté de son épouse Catherine Essling. Et donc quand il a rencontré Michel Simon, qu'ils se sont appréciés, qu'ils ont discuté des sujets, que ça ne pouvait que fonctionner merveilleusement. Là, La Chienne est un film où on sent que Simon et Renoir s'entendent, même je dirais presque sans se parler. Simon suivant un vague canevas et jouant Simon, en plus dans le film il était amoureux pour de bon de Jeanne Imarez. Donc ces deux hommes ont eu un parcours, je dirais, identique avec la chienne, avec Jean de la Lune, avec Boudu, sauvé des eaux. Ça ne pouvait que fonctionner.
À minuit et demi. Je dis à Adèle que je rentre avant minuit.
Comme le temps passe vite, hein. Et dire qu'on n'a encore rien fait aujourd'hui, mon chéri.
Quand je pense qu'on n'a jamais passé une nuit ensemble. Comment est-ce qu'on a passé toute une nuit avec toi?
Oh non, 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 écoute mon chéri, non, je veux pas que t'aies d'ennui à cause de moi dans ton ménage.
Non, mais non, je raconterai des histoires, je raconterai une histoire. Laisse-moi
mon chéri. Non, mais écoute, sois raisonnable. Hein? Non, non, mais ça me prive autant de toi. Ah non, 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 écoute, allez, sauve-toi, je vais rentrer. Je non, non, non.
Ah, mais c'est allumé chez toi.
Ah, mais je me rappelle, j'ai oublié d'éteindre en sortant.
J'aime mieux monter avec toi, on ne sait jamais. Non, je serai plus tranquille, je te jure.
Non, mais écoute, tranquillise-toi, si c'était des voleurs, ils n'auraient pas allumé. Et puis d'abord, je veux pas que tout le monde les prend des tasses, ça va te fatiguer. Allez, viens.
Je me sens une place.
Il y a la chienne de Jean Renoir, où il incarne un personnage justement à l'opposé du personnage de la Talente, qui est un personnage veule, un peu pusillanime et ridicule, mais qui devient tragique et attachant par son destin et par sa propension à se laisser mener par le bout du nez, par sa maîtresse, qui l'entraîne jusqu'à la clochardise, justement, dans un sens, on peut dire que Boudu sauvé des eaux, c'est presque la suite de la chienne.
Oui, parce que là, c'est vraiment la clochardise complète.
Oui, et justement, je trouve que Boudu sauvé des eaux est un des autres rôles qui me tient le plus à cœur dans sa carrière, mais c'est dû aussi au talent de Jean Renoir, qui a su le laisser en liberté dans un certain cadre. C'est-à-dire que, même au début, quand on le découvre, on l'observe au téléobjectif comme dans un documentaire. Et il, de par sa silhouette, de par sa démarche, on peut le croire réel. Et c'est ce qui a fait la force des films, des rôles de Michel Boudu.
De Boudu, de Michel Simon.
Michel Simon dans les films de Jean Renoir ou de Jean Vigo, qui étaient des gens qui laissaient une grande part à l'improvisation ou au moins à filmer les gens dans un contexte plus ou moins réaliste.
Toutes choses égales, hein, et toutes tendances confondues, si vous prenez son personnage de la chienne, de Boudu et de la Talente, en gros c'est trois clochards, ou trois déclassés, hein, ou trois pauvres types. Or, il est totalement différent de l'un à l'autre. Hein, je veux dire, c'est ça, le génie de Michel, c'est que, bon, disons qu'un acteur un peu confortable ou un peu médiocre va répéter sa performance, et bon, et c'est là aussi on voit la limite avec certaines autres vedettes de l'époque de Michel et de notre temps, qui d'un film à l'autre, sans se fatiguer, reprennent pratiquement le même rôle et font écrire à leur mesure des rôles sur mesure, hein, vraiment. Le génie de Michel, c'est effectivement de prendre apparemment, je vous dis, trois personnages qui sont à peu près semblables, et à l'arrivée, ils sont totalement dissemblables, ils les jouent de manière totalement différente, avec un grimage minimal, il est très peu grimé, il arrive à regarder, des critiques l'ont souvent fait remarquer, mais l'une des très grandes forces de Michel Simon, et un des critères, hein, pour définir un très grand comédien, c'est un homme qui avait plusieurs voix, hein, un grand comédien, c'est pas un homme qui n'a qu'une seule voix, c'est un homme qui a plusieurs, qui peut changer de voix, qui est tout le temps lui-même, mais avec des voix différentes. Michel savait changer totalement de registre et savait changer de voix. Pas passer par exemple les trois films que j'ai dit, La Chienne, Boudu et La Talente, les voir par exemple dans la même journée, on est absolument stupéfait de ces performances. À la limite, on se dit c'est trois acteurs différents, c'est ça aussi qui est fascinant. On sait que c'est lui, on sait que c'est le même, et il les joue de façon tellement différente qu'on pourrait croire qu'on a affaire à trois acteurs différents.
Il a quand même toujours eu une prédilection pour les rôles de déclassés, enfin de personnages complètement marginaux, enfin, qui correspond sûrement aussi à une tendance politique plutôt anarchiste, plutôt affirmée d'ailleurs.
Oui, je crois pas, enfin, qu'elle soit véritablement politique, enfin, ou politicienne, comme on dit aujourd'hui. C'était profondément un anarchiste. Reste à savoir si c'était un anarchiste de gauche ou un anarchiste de droite, c'est peut-être un autre problème, mais c'était un homme qui, effectivement, je crois même que plus qu'anarchiste, c'était un homme qui était totalement nihiliste. Moi, je vous dis, dit, je crois qu'il était tragique et totalement désespéré. Et il y avait un nihilisme absolu chez lui. Alors c'est vrai que ce type de personnage, il était très attiré. Ou il adorait jouer les bourgeois absolument répugnants, vicieux et tout, etc. Parce que là, il pouvait faire une charge, il pouvait détruire ces personnages de l'intérieur. Ou au contraire, il avait une très très grande sympathie pour ces exclus de la société, pour ces marginaux, et dans lesquels il mettait absolument toute sa sympathie et tous ses espoirs, parce que ces gens étaient asociaux. Je pense qu'il était sans doute beaucoup plus asocial qu'antisocial, si je puis dire.
Alors c'est pour ça. C'est pour mes tableaux. Tu me voyais uniquement pour ça.
Non mais pourquoi que ce serait ? Regarde-toi dans une glace.
Imbécile. Idiot dire que j'ai cru à ça. Ah, tiens, tu me dégoûtes.
Ben et toi ? Tu crois que ça m'amusait ? Il n'y avait pas eu ton fric, comment que je t'aurais laissé tomber ? Oh là là. Monsieur voulait être aimé pour lui-même. Monsieur voulait de l'amour. Oh, laisse-moi rire.
Saleté. J'ai pas une femme qui est une chienne.
Pose toujours, hein ?
Tu caresses l'homme qui te nourrit, tu caresses l'homme qui te donne des coups.
Si tu savais comme tu m'intéresses, tu te fatiguerais pas tant.
Ah, il te recette en macro. Tu avais bien raison, puisque c'est la seule façon de te prendre.
Il me recette peut-être, mais je l'aime.
Ah, tu l'aimes. Allons, habille-toi, habille-toi. On va partir ce soir, tout de suite. Loin d'ici, allez, 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 dépêche-toi. Alors quoi, tu veux rester avec lui? Voyons, c'est pas possible, voyons. J'ai tout sacrifié pour toi. Voyons, Lucienne, je veux que tu saches, Lucienne. Si tu savais, tu comprendras peut-être, écoute. Voyons, Lucienne, je t'ai tout donné, c'est pas possible que tu aimes ce type-là qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de délicatesse, qui n'a pas d'éducation, Lucienne, voyons. Lucienne, ma petite Lucienne. Alors tu ne m'aimes plus, non. Lucienne.
Quand il joue des amoureux, c'est toujours des amoureux sans espoir, des amoureux déçus. Il y a quand même un profond désespoir chez lui dans tous ces rôles, disons, dramatiques.
Comme par exemple, je pense à ce film, bon, qui n'est pas un grand film, mais qui est assez drôle, Naples au baiser de feu, où on le voit jouer un rôle de confident. En fait, il est amoureux d'une jeune femme, mais finalement, oui, Elle-même est amoureuse d'un autre. Et lui est toujours un peu en porte-à-faux, comme ça, entre cet autre personnage et la jeune femme. Il est vraiment toujours de côté, oui, un peu rejeté.
Mais il me semble avoir vu vaguement ce film il y a très longtemps, mais il me semble qu'il jouait donc le faire-valoir de Tino Rossi.
Oui, c'est cela.
C'est ça, oui. Oui, mais ça va jusqu'à des extrêmes encore plus grands. Quand il, par exemple, dans Quai des Brumes, où il est un amoureux, secret de l'héroïne, que joue Michel Morgan. Et il est censé être son tuteur, mais on sent qu'il y a toute une relation trouble entre eux, enfin, surtout de sa part à lui, et qui débouche sur le drame, d'ailleurs.
On s'en va comme les hirondelles. On abandonne son vieux tuteur. On le laisse tout seul, dans l'inquiétude. Pourquoi t'es-tu sauvé l'autre soir ?
Parce que j'ai eu peur.
Quel enfant tu fais ? Pourquoi es-tu revenu alors ?
Parce que les autres me font peur aussi. Où voulez-vous que j'aille ?
Tu ne te plais pas ici ? N'ai-je pas toujours été gentil avec toi ? C'est drôle, tu es encore une petite fille.
Pourtant, tu es déjà une petite femme.
Oh, ne me regardez pas comme ça.
Où as-tu été cette nuit?
Nulle part. J'ai marché.
J'ai suivi un régiment. C'est beau, hein, les militaires.
Marcel Carnet, ça se passe aussi très bien.
Il y a quand même deux chefs-d'œuvre.
Il y a aussi, il y a deux chefs-d'œuvre. Il y a Drôle de drame, il y a Quai des brumes. Même avec Marcel Carnet, c'est un peu différent. C'est une entente plus professionnelle qu'amicale. Il y a plus un respect. Michel Simon a du respect pour le technicien qui est Carnet. Et Carnet est très impressionné par le talent de Michel Simon. Il a la pointure de cet homme. Alors c'est vrai qu'il lui offre deux rôles extraordinaires. Donc Drôle de drame, Moulineux, et puis Quai des brumes, où il est, Michel Simon est encore peut-être plus prodigieux que dans Drôle de drame.
Et vous, Claude Gauthier, vous avez travaillé, si on peut dire, en tant que journaliste sur le personnage de Jean Gabin et sur Michel Simon. Quelle distinction feriez-vous entre les deux? Parce que on a l'impression que finalement, Gabin s'est un peu, enfin non pas enfermé, en fait, disons, a toujours fait un petit peu le même personnage à l'écran, alors que Michel Simon, il y a une plus grande multiplicité de rôles, en fait.
Absolument, c'est la différence, si vous voulez, entre l'acteur et le comédien. Je veux dire, Gabin, d'abord, Gabin est devenu un mythe, hein, bien évidemment. C'est le mythe, c'est sans doute le seul grand mythe du cinéma français, enfin du côté masculin. C'est le seul acteur qui était une star au sens hollywoodien du terme et qui a un parcours pratiquement exemplaire. Enfin, même si on aime moins la dernière partie de sa carrière ou ses derniers films, qui a bâti un personnage absolument extraordinaire. Il y a un mythe qui perdure. Michel, au contraire, n'avait qu'une idée, lui, c'est d'avoir ou plusieurs images ou au contraire de sans arrêt casser, briser cette image, et il adorait effectivement les rôles monstrueux, les rôles où il faisait peur, les rôles où il déplaisait aux gens. Et c'est vrai que vous faisiez allusion à Quai des Brumes, c'est certain qu'il a joué ce personnage avec un plaisir extraordinaire, puisqu'il disait ce tuteur qui veut violer sa pupille, ce type qui a la légion d'honneur et il disait toujours qu'il y a une scène coupée. Ça, Carnet ne l'a jamais confirmé à ma connaissance, mais qu'il se trimballait avec la tête, il avait tué quelqu'un, il se trimballait avec la tête coupée dans un carton, et c'est ce qu'il déposait. Alors il a toujours dit que la censure avait interdit cette scène et tout, je ne sais plus finalement. Dans les histoires de Michel, on finissait par ne plus savoir ce qui était vrai et ce qui était inventé par lui, parce que c'était une très belle histoire également.
Jolie musique, hein, qui me rappelle de drôles de souvenirs. Je me souviens quand je chantais l'opéra un soir, c'était à Metropolitan Opera de New York.
Metropolitan Opera à New York.
Non, tu as raison, c'était à l'opéra de Chicago. Une admiratrice m'a jeté une gerbe d'orchidées. Je les ai comptés, il y en avait 74. Je les ai comptés entre deux contre une.
Que tu nous racontes? T'as jamais chanté à l'opéra, t'as jamais été en Amérique.
C'est exact, mais si je n'inventais pas de souvenirs, je n'en aurais pas. Je ne vous demande pas de me croire, je vous prie de m'écouter. Une fois que t'es un public...
Je t'adore, Cabrissa. Tu mens avec franchise, bravo.
Voici qu'on vient d'annoncer la pause et nous avons la bonne fortune d'avoir à nos côtés, tout près de notre micro, M. Julien Duvivier. M. Julien Duvivier qui va se faire un plaisir de venir à nos côtés. Venez, M. Duvivier, et parlez-nous.
Vous m'excuserez, moi je n'ai pas le temps, mais je passe volontiers la parole à un de mes interprètes, Michel Simon, qui va vous dire tout ce qu'il voudra.
Oh, merci tout de même, M. Duvivier. Voilà, M. Michel Simon, qui a un superbe chapeau à plumes dans la main.
C'est un bonnet à poil.
Enfin, un bonnet à poil. Mais pouvez-vous nous expliquer, M. Michel Simon, ce que vous faites dans ce costume et s'il a un rapport quelconque avec le personnage que vous interprétez dans La fin du jour?
Il a un rapport, oui. C'est un vieux comédien. C'est une espèce d'anticipation. Je me vois tel que je serai dans une dizaine d'années ou un peu plus tard, après, dans une maison de retraite de vieux comédien. Le plus tard possible.
Oh, mais je pense que vous n'y serez pas.
C'est un grand film qui m'a demandé un long travail. Et voyez l'état où je suis, j'ai 65 ans. C'est la première fois qu'un comédien joue un comédien, je crois. À l'écran.
Et surtout...
Un vieux comédien. Ça vieillit. D'habitude, les comédiens se rajeunissent.
Cette fois-ci, vous vous êtes considérablement vieilli.
Oui.
Eh bien, M. Michel Simon, nous vous remercions beaucoup de
votre aimable intervention. Ça n'a pas été trop mèche.
La fin du jour est un beau film, hein, de Duvivier, sur un scénario des dialogues de Spack. Et c'est un film assez atroce, puisque c'est un film qui se passe à Pont-aux-Dames, enfin dans une maison de retraite de vieux comédiens, où effectivement on retrouve là Jouvet, Victor Francène, Michel, etc. Et alors, ce qui était curieux également, c'est que c'était des gens, notamment, il a retrouvé là Jouvet, et déjà ils se détestaient cordialement dans la vie. Enfin, ils avaient déjà travaillé deux ou trois années avant, ou quatre années avant, avec avec Carnet dans Drôle de Drame, mais Jouvet et Michel se détestaient à un point inimaginable, et là ils se retrouvaient encore dans le rôle où les scènes qu'ils ont ensemble, on voit la haine, le mépris de Jouvet et la haine de Michel transparaissent, et là Michel a un rôle absolument extraordinaire d'un vieil acteur qui passe pour être un peu fêlé, mais en même temps qui est un personnage extraordinairement poétique et qui est aussi un acteur qui n'a pas de mémoire, et notamment son grand rêve, c'est de jouer Flambeau dans L'Aiglon. Et la seule fois où il va pouvoir jouer Flambeau dans L'Aiglon, il s'étrangle parce qu'il a perdu la mémoire et il ne peut pas aller jusqu'au bout et il s'affaisse et tout. Mais c'est un des très très grands rôles de Michel, assurément. C'est un très beau, c'est un film d'ailleurs qui ressort régulièrement, mais c'est un des musts du cinéma français d'avant-guerre.
Flambeau, vous allez manquer votre entrée!
Je viens. Il faut qu'on parte, on ne doit pas manquer le quart. Je t'écrirai, tu sais, c'est promis.
Jamais parler chez vous. Tout a recommencé, toujours. On recommence deux fois, trois fois, et puis... C'était un démon, ça, un cheval, sans jamais desserrer les...
Comment, mais chez vous, après,
allez. Ne t'en fais pas.
Choisis le plus gratteux de la maison. C'est pas lui qui fait jouer.
Et l'autre, où est-il?
Alors voyons, Cabrissade.
Où est votre camarade? Où avez-vous pris ce costume?
Je ne sais pas, je suis vieux.
Ah, nous réglerons ça plus tard. Remontez chez vous. Écartez-vous. Voyons, laissez passer.
Ce n'est pas ma faute, je suis vieux. Je suis vieux.
C'est moi le plus pépère, comme de bien entendu. Avec ma régulière, comme de bien entendu. Je suis le plus heureux de la terre, comme de bien entendu. J'arrose mes salades et je ne m'en sais plus, comme de bien entendu.
J'ai joué Fric Frac à Lyon. J'avais demandé à Lecart des documents pour faire une exposition, parce que je dis les bourgeois, les gens bien pensants voient toujours le milieu, les truands à travers cette littérature de mauvais aloi, malhonnête. Ils ne voient jamais vraiment. Je voudrais montrer ce qu'est le milieu que j'ai connu. Et alors j'avais un tas de documents qui ont passé dans des vitrines où les clients des Célestins pourraient contempler pendant les entractes. Il y avait notamment des lettres de femmes dont les amants étaient envoyés au bagne pour 20 ans. Avec le doublage, ça faisait 40 ans, c'est-à-dire qu'elles étaient certaines de ne jamais revoir leur homme, et qui envoyaient des mensualités 12 fois par an, qui envoyaient de l'argent à leur homme. C'est sublime, non? Alors il ne faut pas chercher des traces de ce milieu-là dans la littérature, parce que la littérature qui concerne le milieu, est vraiment, c'est de la merde, hein. C'est de la pourriture. Le dévoyé, le malade, le grand malade, l'irrécupérable, l'homme à supprimer, enfin, la malheureuse prostituée, enfin, tissu de conneries incroyables.
Les truands, vous les avez trouvés quand vous avez quitté le milieu?
Oui, les faux truands, oui, mon Dieu. J'ai été volé dans ce milieu de théâtre, de comédien, du cinéma d'une façon incroyable et tellement habile que c'est même pas la peine de porter plainte. C'est bien fait. Les voleurs du milieu artistique et littéraire sont des champions.
Eh bien, voilà, je disais que, n'est-ce pas, après le dîner, je propose le cinéma.
Oh non, allons voir la boxe au central ou le catch avec Graham.
Vous aimez ça, vous, la boxe?
Pas vous?
Oui, moi, j'aime pas le cinéma, il y a trop de films de gangsters.
Ça choque, monsieur?
Mais non, mais c'est Chic et compagnie. C'est vrai, ça, ils enfoncent la lourde d'un coup dans dos. Ils mettent les gars d'un coup de poing, ils ouvrent les coffres en moins de deux. Ça se passe pas comme ça dans la vie.
Tu ne sais pas comment que ça se passe dans la vie?
Mais plutôt.
Vous connaissez les vrais gangsters, vous? Ça doit être passionnant, ça.
Mais ils bluffent, le croyez pas. Tais-toi et pocheté.
Monsieur a choisi?
Tête de veau.
Ben, dis donc, t'as fini de m'engueuler, toi.
Mais non, c'est ce que nous choisissons.
Ah bon?
Deux têtes de veau à l'huile.
Oui, ben, moi, pour moi, un veau maringo.
Et l'amour des femmes?
Bah, l'amour des femmes, il l'a connu. Il y a quelques femmes qui ont partagé son existence. Je pense à Lucienne Bogart, qui a tenu le coup. Il y a Jeanne Carré, il y a Denise Dax, qui est une femme, je crois, qui l'a beaucoup aimée, et dans les deux sens, hein, ils se sont beaucoup aimés, et elle en parle encore aujourd'hui d'une façon tout à fait merveilleuse. Je dirais que je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là au niveau. Le reste, bah, ce sont les prostituées qu'il fréquentait assidûment et dont il était l'ami.
Je les ai connues, je les ai fréquentées, et j'étais, en mon jeune âge, un assidu. Assidu du bordel.
Et quel était le décor que vous paraissait le mieux? Vous avez des souvenirs précis d'endroits précis?
Eh enfin. Bien, autant de bordel, autant de décors différents, autant de patrons différents, autant de sous-maîtresses différentes, et autant de pensionnaires différentes aussi. C'est ça qui faisait le charme du bordel, c'est qu'on pouvait parcourir la France dans tous les sens, et découvrir chaque fois quelque chose de nouveau.
Il n'y avait pas de guide Michelin du bordel à l'époque, ça n'existait pas. Ça se disait de bouche à oreille.
Il existait, c'était le guide rose,
oui.
Qui était très sérieux, qui était renouvelé chaque année. Quand un établissement nouveau prenait naissance, il était signalé immédiatement à l'attention du chaland dans le guide rose. La France, la Suisse, la Belgique, et puis alors les colonies. Vous aviez votre guide rose sur vous et vous pouviez rester jusqu'à la fin de vos jours un célibataire endurci.
Évidemment. À propos, et votre femme, peut-on savoir la raison, enfin le...
Une femme impossible, mon cher. Aucune tendresse. Elle n'aimait que l'argent. Tout ce qu'elle aimait, c'était dépenser, recevoir, paraître. Alors, je l'ai fait disparaître. Moi, j'aurais voulu quand même.
Ah, comme je vous comprends, mon pauvre vieux. Mais vous n'avez trouvé personne pour vous consoler?
Si, une jeune fille. Elle m'a rayonné. Elle est malétique.
D'une part, il a inventé des personnages complètement extravagants. Il pouvait être le diable dans La beauté du diable ou un malfrat bourru et un peu cocasse dans Fric Frac. Mais d'autre part, il avait toujours ce naturel qui est assez rare au cinéma. Il avait toujours cet accent, cette voix traînante, ce côté rocailleux presque de sa voix. Qui était composé avec c'était une voix cassée avec de multiples harmoniques. Il y avait son visage qui ne pouvait pas mentir. Tous ces éléments ne pouvaient pas mentir. On voyait toujours que c'était Michel Simon. C'était pas quelqu'un qui pouvait se travestir. Donc il était à la fois ce personnage bizarre physiquement, cette entité dérangeante, et à la fois il pouvait jouer un précieux, aussi bien qu'un être complètement sauvage.
De même que pour quelqu'un qui affectionne les rôles d'anarchiste, ou enfin disons de personnages marginaux, en fait, finalement on le retrouve souvent, on le retrouve quelquefois dans des rôles qui sont exactement à l'inverse. Je pense à ce procureur, enfin cette composition de personnages de procureur, par exemple, dans le film d'Etoresco, la plus belle soirée de ma vie, ou enfin dans d'autres. Enfin, de temps en temps, il joue les juges aussi, mais enfin cela dit, ça peut être un autre pendant du rôle d'anarchiste, finalement. C'est celui qui se met en position de juge par rapport à la société.
Oui, mais disons qu'il a pu aussi bien jouer un juge qu'un condamné, parce que dans La Poison de Sacha Guitry, par exemple, il joue un braconnier assez machiavélique, qui est comme un peu un représentant du paysan matois rusé qui s'est louvoyé et qui s'est embobiné un peu l'establishment dans un sens.
Et je sais que c'est un rôle qui l'a beaucoup amusé, parce que là aussi Michel Simon apparaît quand il est. C'est vrai que sa femme, c'est pas un cadeau, hein. Bon, elle est ivrogne, elle dort en permanence, elle cuve son vin en permanence. Michel Simon est très dur à son égard, comme il prend des coups aussi. Et Michel Simon, dans la vie aussi, est un homme qui est très dur.
Je vous écoute.
J'ai tué ma femme.
Quand?
Hier au soir.
Comment l'avez-vous tué? Mais quoi? D'un coup de couteau?
Oui.
Bon.
J'aurais mieux fait de l'empoisonner.
Je n'ai pas dit ça.
Il m'a semblé qu'un coup de couteau...
Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Le poison, c'est prémédité.
C'est bien ce que je pense.
Vous l'aviez donc prémédité?
Ouais.
Sa mort? Je ne suis pas le juge.
Ah, c'est vrai.
Oui, ça...
Ça ne peut pas dire que je l'ai prémédité.
Ça s'est trouvé comme ça?
Voilà.
Et cependant, vous disiez à l'instant que vous avez pensé que le couteau valait mieux que tout.
C'est vous qui l'avez dit.
Qu'est-ce que vous racontez là, oui?
Bon, il demandait si je l'avais tué avec un couteau.
Ah, vous m'avez répondu oui.
Oui, naturellement, ben... L'idée du couteau, c'est vous qui l'avez eu.
Mais c'est absurde ce que vous dites là.
Non. Seulement, je m'exprime mal. Est-ce que j'aurais mieux fait de la tuer autrement?
Mais jamais de la vie. Bien, ce qui est fait, est fait.
Bon. Bon, j'ai bien fait de m'y prendre comme ça. Mais
je vous ai déjà répondu oui.
Bon. Non, je voulais savoir si j'avais bien compris. Faut que vous m'excusiez si je suis un peu tatillon. Vous, n'est-ce pas, votre vie, c'est les crimes. En somme, vous ne fréquentez que les assassins, alors fatalement, vous en avez la pratique. Moi, c'est la première fois que je tue. Alors, évidemment, je suis un peu affolé. Voilà. Je voulais seulement savoir si j'avais pas fait de gaffe.
Mais voyons, Sacha Guitry, pourquoi avez-vous choisi Michel Simon comme principal interprète de la vie d'un honnête homme?
Et parce qu'il est un admirable acteur, le plus grand que nous ayons sans doute à l'heure actuelle, et parce que jouant les deux frères jumeaux de mon film, il trouvera de la sorte à qui parler.
Sur l'écran des avant-premières, un bureau. Derrière le bureau, Michel Simon. Devant le bureau, Michel Simon. Les deux jumeaux se contemplent sans aménité. Alors, Alain, le malchanceux, décide de repartir et il demande au riche Albert...
Bon. Donne-moi 1000 francs, veux-tu? 1000 francs? Alors, tu vas tout de même pas me les refuser, hein? Qu'est-ce que c'est que 1000 francs pour toi?
C'est 1000 francs comme pour toi.
Oui, mais moi, avec 1000 francs, je peux manger pendant 6 jours.
Mais moi, avec 1000 francs, je peux fumer pendant une semaine. Pourquoi veux-tu que je me prive de fumer pendant 8 jours? Parce que tu n'as pas su te débrouiller dans la vie.
Pour moi, la véritable famille est celle que l'on s'est volontairement constituée. Sa femme et ses enfants. On a choisi sa femme et ses enfants, on les a faits. Mais son père, sa mère, ses frères, ses cousins, ses oncles et tout le reste, c'est le destin qui vous les impose. Si tes enfants pensaient cela de toi, mais sois-en persuadé, ils penseront cela quand ils auront eux-mêmes des enfants.
Ainsi tu considères que je te suis imposé?
Mais naturellement. Est-ce que je t'aurais jamais choisi? Voyons. Est-ce que la pensée me serait jamais venue de me lier avec un homme de ton espèce? Nous serions nous-mêmes rencontrés si je n'étais pas ton frère. Sûrement pas. Il faut que tu aies le courage de regarder les choses en face. Toi dans ta position, moi dans ma situation, l'idée te serait-elle jamais venue de sonner à ma porte si je n'étais pas ton frère? Mais non. Et permets-moi de te dire que si j'avais dû me choisir un frère, je l'aurais choisi dans notre monde, à nous. Je vois dans ton regard combien tu désapprouves mes paroles. Évidemment, je te semble cruel, et peut-être je le suis, à mon corps défendant. Mais il faut tout de même bien que ces choses soient dites. Peu de gens auraient osé le faire. Et c'est parce que je suis un grand honnête homme que j'ai le droit de prononcer certains mots. L'honnête homme a une mission à remplir. Il ne doit pas seulement donner d'exemple de la droiture. Et puisqu'il est inattaquable,
Il doit en profiter pour rendre la justice. Et je te prie de croire que ce n'est pas toujours amusant. Il y a des jours où j'ai beaucoup de peine à faire taire mon cœur. Et si je me laissais aller, j'irais jusqu'à donner de l'argent à des malheureux.
Comme tu y tiens, ton argent.
Je suis l'exemple qu'on me donne. Tout le monde y tient, mon argent. Toi le premier. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est que d'être riche, mon ami.
C'est épouvantable.
Oui, quelquefois.
Surtout probablement quand on a décidé d'être un grand honnête homme.
Tu te crois spirituel en ce moment, n'est-ce pas? Je ne te retiens plus.
Eh bien, moi, je te retiens. Adieu.
Excuse-moi de ne pas t'accompagner.
Oh, j'ai trop honnête pour être poli.
Il y a eu toute une période où le cinéma avait un grand naturel et où les choses n'étaient pas aussi sophistiquées qu'elles sont devenues par la suite. Et graduellement, jusqu'à la fin des années 50, on allait vers un cinéma qui était plus de l'illustration d'œuvres littéraires que de la vraie création. C'est-à-dire, il y avait de plus en plus d'adaptations littéraires. On allait vers quelque chose de plus culturel, entre guillemets. Et c'est ce qu'a essayé de casser par la suite la nouvelle vague en voulant justement retourner filmer dans les rues et avec plus de vérité. Et je crois que là, Michel Simon ne fait que traduire une réalité qui était vraiment présente. C'est-à-dire que ce cinéma de la fin des années 40 et des années 50 a été de plus en plus un carcan pour les acteurs, aussi bien que pour les histoires, c'est-à-dire que tout était clos et sans imagination, en fait.
Mais pour autant, la Nouvelle Vague n'est pas allée chercher Michel Simon.
Non, parce que c'était un acteur qui appartenait quand même à un passé plutôt révolu et qui était aussi attaché à des réalisateurs qui étaient en opposition avec les dogmes de la Nouvelle Vague. Donc, il était assimilé à ce cinéma un peu vieillot par sa faute, dans un sens, puisqu'il n'a pas trouvé la possibilité de casser ce moule, parce qu'il voulait à tout prix travailler. Donc la Nouvelle Vague n'a pas fait appel à lui, elle a plutôt utilisé des jeunes acteurs débutants, comme Belmondo ou Brialy à l'époque.
Michel Simon, par moment, on se demande s'il se rend compte de ce qu'il fait. Il a pris une décision, il dit « je fais pas ça, j'ai pas envie, ça m'ennuie, je m'en vais ». Alors bon, qu'importe les conséquences. Alors évidemment, plusieurs années après, ça lui revient. De son, il dit « donc, vous aviez signé un contrat, vous l'avez pas honoré, alors il faut peut-être l'honorer, ou alors vous nous donnez de l'argent pour le dédit, ou alors vous tournez ça à la place ». Bon, ben ça c'est, mais c'est régulier, je dirais qu'il a peut-être eu 30 ou 40 procès dans sa vie comme cela, mais ça l'amusait. C'était un procédurier, il adorait ça.
Eh bien, voyez-vous, j'ai la réputation d'une forte tête, d'une mauvaise tête, j'irais même jusqu'à dire d'un emmerdeur, parce que je veux faire des choses de qualité. Je crois que ce qui on peut imputer au cinéma français, c'est à la libération en 1945, un jour, un nazi qui était... pas forcément allemand, a décrété que le film était fait par le metteur en scène et que les acteurs étaient des employés. Et ça a gonflé la tête de pas mal de jeunes metteurs en scène qui ont fait pas mal de films. Ces films ne passent pas les frontières, ils ne passent même pas les écrans puisqu'ils finissent en général dans la poubelle. Et je renonce désormais à faire des films. Peut-être du théâtre où là, le rideau levé, on est maître de la situation.
Braconnier, vous avez entendu l'acte d'accusation?
Oui. C'est très joli tout ça. Mais il y manque le principal. J'étais en état de légitime défense et là, il n'en est pas question. Alors que ça change tout. Vous essayez de faire de moi un assassin, mais ça ne prend pas. Car si je n'avais pas tué ma femme, c'est elle qui m'aurait supprimé. Et me reprocher de l'avoir tué, c'est me reprocher de ne pas être mort. Et si c'était moi qui étais mort,
C'est elle qui serait là aujourd'hui devant vous, à la place que j'occupe.
Et singulièrement plus coupable que nous.
Non, il avoue qu'on était de mèche tous les deux.
Oui, plus coupable encore. Car ayant acheté de la mortora 3 jours auparavant, elle préméditait donc son crime.
Mais pardon, pardon, quand vous l'avez tuée, vous ne saviez pas qu'elle avait elle-même des intentions criminelles.
Des intentions? Ben vous me faites bien rire. Elle avait mis de la mortora dans mon verre, et vous appelez ça des intentions? Il me semble que c'est plutôt un fait.
Soit, mais ce fait, vous l'ignoriez.
Eh ben, je n'en ai que plus de mérite encore, si je l'ai deviné. Je l'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait ma mort. Et puis j'ai vu aussi le couteau, et je l'ai pris tout de suite, pour qu'elle ne le prenne pas.
Et vous l'avez tué.
Et je me suis défendu. Si bien, monsieur, que pour une fois, le châtiment aura précédé le crime. Et vous seriez bien malvenu de m'en faire un grief, alors que ça devrait vous servir de leçon.
Là, vous allez trop loin.
Pas loin du monde. Et je tiens même à m'expliquer sur ce point. Ma femme était un assassin, nous sommes tous d'accord là-dessus.
Bon.
En la supprimant, je ne faisais pas autre chose que ce que vous auriez fait vous-même.
Taisez-vous, je vous crie.
Non, je ne me tairai pas, car c'est ça que vous faites. Seulement, vous, vous le faites trop tard. Avec cette habitude que vous avez d'attendre qu'il y ait quelqu'un de tué, vous rendez la justice, je ne dis pas le contraire. Mais ça fait une mort de plus. Avec mon système, à moi, ça en fait une de moins.
Si j'étais venu vous dire la veille de mon histoire, ma femme va me tuer demain, est-ce que vous auriez pu faire quelque chose pour moi?
Rien du tout.
Si je vous avais demandé la permission de la tuer avant qu'elle ne me tue, vous ne me l'auriez pas donné. Et vous m'auriez laissé empoisonner sans même lever le petit doigt. C'est pourquoi je viens vous dire aujourd'hui. Vous seriez bien malvenu de me reprocher d'avoir fait votre travail.
C'est insensé.
J'observe une chose extraordinaire. C'est à quel point le fait d'avoir commis un crime peut développer l'intelligence. Jamais en temps normal, je n'aurais été aussi brillant que je viens de l'être à l'instant.
Mais finalement, est-ce que c'était un clochard ou un milliardaire alors?
Les deux, Michel Simon était milliardaire. Le savait-il, c'est pas certain. Mais il aimait jouer les clochards, il aimait se plaindre, il aimait en permanence pleurer. C'était, il n'allait pas faire la manche dans la rue, mais il y a tout récemment un ami photographe qui le connaissait bien, qui l'avait vu très peu de temps avant sa mort en 75. Ils avaient repris le métro ensemble. Il lui avait dit avec sa voix inimitable. Oh, tu peux pas te rendre compte, Michel, comme c'est pénible d'être une vedette. Se plaignant. Bon, alors qu'il était, habillé en permanence avec un pantalon qui tenait avec un bout de ficelle, ça lui servait de ceinture, des vieilles godasses, une vieille chemise, un vieil imperméable. Véritablement, il faisait pitié. Au point que je vous parlais tout à l'heure de ce procès avec le théâtre Gramont, il en a appelé au public en disant « Mais on me ruine !» On me demande, je crois que c'était 150 millions à l'époque, on me demande 150 millions, mais je les ai pas, je peux pas, on va me saisir mes meubles, on va me prendre ma maison de Noisy-le-Grand, on va aider moi, à tel point que la troupe de R, Julien Clerc en tête, donne une représentation à l'Olympia en faveur de Michel Simon. Joséphine Baker lui envoie de l'argent.
C'est tout juste, il ne me tirait pas des larmes en me disant « j'ai encore perdu un procès, vous rendez compte, ils m'ont encore condamné et tout, etc. » C'est atroce. Alors, je m'étais aperçu après qu'il changeait d'avocat comme de chemise, ce qui évidemment ne plaît pas toujours aux avocats, qui fait qu'ils le défendent de moins en moins bien. Et d'autre part, ce que j'ai découvert, mais j'ai mis des années à le comprendre, c'est qu'il en était ravi. Parce que s'il avait gagné un procès, c'était qu'il y avait une justice. Or, il n'y a pas de justice. Il ne pouvait donc être victime d'une injustice. Et même chose, il passait son temps à passer à la télévision où il jouait la misère. Il disait qu'on m'a encore condamné, je n'ai plus d'argent pour ma maison de Noisy et tout, etc. Et il recevait de la France entière des colis, des victuailles, des paysans qui lui envoyaient un poulet, enfin des braves gens de France qui lui envoyaient un tas de choses qu'il foutait à la poubelle immédiatement ou qu'il laissait pourrir.
Et Michel Simon a quand même payé 7,5 millions. Comme ça, d'où les a-t-il sortis? C'est pas le peu d'argent qu'a rapporté cette collecte, dirais-je. Mais il adore se plaindre, il aime qu'on le peigne, et il aime qu'on l'aime.
C'est un homme qui a été traîné dans la boue toute sa vie.
Denise Dac.
On a raconté les pires horreurs sur lui. On a raconté qu'il faisait l'amour avec ses singes. Moi, je suis restée 3 ans avec lui. J'adore les animaux. Je vous assure que si j'avais constaté la moindre des choses, je serais pas restée 3 ans. Bon, on a raconté... cela dit, il sentait quand même le soufre, Michel, parce qu'il n'a jamais caché son amour des mauvais garçons, des putes, et pourquoi pas. Il était dans la vie, bon, pourquoi pas. Et là, actuellement, il y a, alors, il se passe des choses innommables. Michel, agent du KGB, enfin, c'est à hurler de rire. C'était d'une telle connerie, vraiment. Michel était un art. C'était un doux anard. Bien sûr, il se trimballait pas avec des bombes dans ses poches. Mais, comment est-ce qu'il aurait pu appartenir au KGB, enfin, fournir des renseignements, parce qu'il était client du One Two Two? Alors, j'ai lu ça, il était client du Wentutu. Alors, il obtenait des informations par les filles qui travaillaient, qui couchaient donc avec les Allemands. Et Michel transmettait ça à Moscou. Non, mais écoutez, franchement.
Je l'ai rencontré pour la première fois en 1962. Personne ne s'occupait de lui. Nous étions dans les années 60. Hein. Il était tombé dans un oubli dans un très grand purgatoire. Et tout bêtement, un jour, Jean-Louis Chéret, qui était le directeur du studio Parnasse, où tous les cahiers du cinéma et moi-même et d'autres ont fait nos classes. Enfin, on allait voir tous les classiques du cinéma. Un soir, Jean-Louis Chéret avait programmé L'Atalante et Boudu sauvé des eaux. Et je me suis jeté à l'eau, je lui ai dit, dites donc Jean-Louis, ça vous intéresserait que j'amène Michel Simon ? Ah, mais formidable, ça serait formidable. J'ai donc téléphoné avec une très grande appréhension à Michel Simon, parce que je ne savais pas du tout l'accueil qu'il allait me faire, et il m'a dit, c'est très gentil, tout le monde m'a oublié tout, j'aimerais bien vous voir et tout. Donc il m'a invité à un restaurant qui était près de l'endroit où il vivait, vers la Porte Saint-Martin, qui s'appelait La Bouillabaisse à l'époque, et qui depuis est devenu un restaurant chinois. Nous nous sommes mis à table à 2h, et à 8h du soir, nous y étions toujours, et bon, un courant est passé, nous avons sympathisé, et j'ai vu là un homme qui était brisé, désespéré. C'est vrai qu'il a vu toutes ces histoires, tous les procès qu'il a eu comme toujours, qu'il a toujours perdu d'ailleurs, ces histoires de teinture, d'empoisonnement. Et à l'époque, personne n'allait le voir.
Lui, il avait quel âge ? Il avait 65 ans, c'est à peu près ?
Oui, c'est ça, puisqu'il est né en 95, hein, sauf erreur. Donc, il avait 67 ans à peu près, soit il approchait de 70 ans. Et il était... les producteurs ne voulaient plus. Alors, c'est vrai qu'il avait cette fameuse réputation de faire tourner les gens, et notamment les gens de cinéma en bourrique. Il était très, très violent dans ses rapports avec les professionnels, mais en même temps c'était l'époque où les assurances commençaient à ne plus l'assurer, parce qu'on ne savait pas s'il allait terminer un film. Il y avait toujours des problèmes de santé, des problèmes de mémoire, etc. Et les gros problèmes qu'il a eu sur la fin de sa carrière, c'est que même, je crois, quand il a fait Claude Berry a pris un très grand risque, calculé d'ailleurs, quand il a fait Le Vieil Homme et l'Enfant, c'est qu'il n'était plus assuré, quoi. Il n'y avait pas de garantie qu'il irait jusqu'au bout du film.
Mais ça, c'est un film qui était encore à venir alors dans sa carrière.
Bien sûr, qu'il allait tourner 3 ou 4 ans après. Mais si vous voulez, le tournant de sa carrière, enfin, le tournant de la dernière phase de sa carrière, ça a été Du vent dans les branches de Sassafras. Et alors, ça a été un peu ce qu'il a remis en selle, si vous voulez, un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils ont joué la pièce 500 ou 600 fois, donc pas toujours dans des conditions agréables pour ses partenaires, bien sûr. Mais c'est la pièce, c'est le succès, ainsi que celui du Vieil Homme et l'Enfant, qui lui ont donné un peu confiance en lui-même. Et alors, les producteurs sont venus. Il a eu quelques propositions, beaucoup moins qu'avant, mais il a encore eu quelques propositions. Tout ça également pour vous dire que au tout début des premières représentations du Vent dans les branches de Sassafras, moi j'étais souvent, on était quelques-uns, on avait quelques amis à essayer de le soutenir, on se relayait, on allait le voir et tout. Je peux vous dire qu'on ne se, enfin je l'ai écrit et je le maintiens, on ne se bousculait pas dans sa loge.
Plus tard, il y a surtout, je dirais, Le Vieil Homme et l'Enfant, qui est véritablement, je crois, à mon sens, le rôle où Michel Simon apparaît dans sa vérité. Il y a chez cet homme qui est un personnage de droite, qui est antisémite, il y a quelque chose de terriblement touchant lorsqu'il se rend compte qu'en fin de compte, il a hébergé pendant quelques mois un enfant juif. Et c'est à la fin du film, lorsqu'il lui dit, hier c'était les juifs, maintenant ce sera autre chose et tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Finalement, de cet homme qui, pendant un certain nombre d'années, a nourri une haine antisémite, raciste, sans trop savoir ce que c'était, et qui, au simple contact d'un enfant, a compris qu'il y avait autre chose dans la vie, je trouve ça très touchant. Pour moi, je dirais presque que c'est le plus grand film de Michel Simon. Et ce rôle avec le petit Alain Cohen, enfin, qui a grandi depuis, est fantastique. Et en plus, dans le tournage, ils étaient comme ça, tous les deux. Il y avait une complicité folle. Et Michel Simon est un des rares comédiens de cette époque qui était capable de merveilleusement jouer avec les enfants. Vous savez que c'est très difficile de jouer avec un enfant. Et Michel Simon savait
parfaitement les prendre, peut-être parce qu'il souffrait de ne pas avoir d'enfant, bien qu'il ait eu un fils, mais qu'il ne fréquentait pas. C'est peut-être pour ça, mais il avait, dans un certain Monsieur Jo, c'est pareil, il a une petite fille comme partenaire, il excelle dans les rôles où il a des enfants, comme il excelle dans les rôles où il a un chien, où il a un animal à ses côtés. Il y a, si vous voulez, il aime les enfants parce qu'il y a un côté, il y a une pureté, il y a une franchise qu'il ne trouve pas chez les adultes.
L'innocence.
L'innocence, oui.
J'ai connu ce genre de personnage, vous savez. J'ai été moi-même dénoncé comme juif. En 40, mon portrait est passé à l'exposition antisémite à côté de celui du cher Léon Blum. Mais ceci dit, je ne suis pas juif, je suis catholique, apostolique et romain. Quand je suis revenu en 42 avec des papiers prouvant mon origine catholique, on m'a dénoncé comme, à ce moment-là, comme communiste. Et mon nom figurait à côté de celui de Torres, dans le même format. Et puis, à la Libération, je me suis dit, je vais pouvoir travailler. Non, là, j'ai été dénoncé comme collaborateur. C'est pour vous dire que bon, j'étais à mon aise dans un personnage anti quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Parce que je trouve que la haine, quand elle se manifeste d'une façon aussi gratuite, aussi imbécile que parce qu'un homme n'a pas votre couleur de peau ou qu'il appartient à une autre religion, est une chose atroce. Et pourquoi, lorsque Claude Berry m'a apporté son histoire, j'y ai souscrit immédiatement, j'étais enthousiaste.
Comment vous êtes arrivé à définir ces relations faites de tendresse avec cet enfant?
Eh bien, le petit Cohen est un être adorable. D'abord parce qu'il est, supérieurement intelligent, et puis qu'il est très affectueux, et on est devenu, au cours du film, on est devenu vraiment un couple d'amis. Et alors ça, c'était en dehors du jeu cinématographique, n'est-ce pas ? À telle enseigne que quand j'avais le cafard, c'est lui qui me remontait le moral. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Il me disait des choses tellement extraordinaires que j'étais son petit protégé. Je lui ai dit, écoute, tu seras moins bête que moi, petit Cohen, tu seras moins bête que le catholique apostolique romain, et toi tu feras de la production sûrement que moi je serai encore acteur, pense à moi, ne me laisse pas tomber, je t'en fais pas, je trouverai des engagements dans mes films, me disait-il.
« L'Ibis rouge » de Jean-Pierre Mocky. Michel Simon a 80 ans, il meurt juste avant la sortie du film.
Pour moi, ça a été vraiment terrible, car Michel Simon, je ne le connais que depuis 6 mois, mais en 6 mois, j'ai appris vraiment à le connaître, on était copains et toute sa légende est fausse. Une fois de plus, les légendes sont fausses. Et je crois que pour nous, enfin pour ceux qui l'ont connu, les techniciens, les artistes qui ont travaillé ce mois de février avec lui, on gardera un souvenir tout à fait différent de celui des autres. C'est uniquement parce qu'il n'avait pas beaucoup d'amis vivants. Je veux dire, puisque c'est un monsieur qui avait un certain âge, et je crois que personne n'a... Nous avons été justement cette équipe les plus proches de lui à sa fin, car c'est un homme qui vivait seul. Et quelques jours après le tournage, il nous invitait encore à manger. Je veux dire, il cherchait toujours à se rapprocher des gens. Et je crois que la seule fois où on s'est disputé avec Michel Simon, parce que jamais on me disait toujours il va être terrible, etc., avec vous, parce qu'il avait une réputation qui faisait d'ailleurs fuir pas mal de gens qui voulaient tourner avec lui et qui disaient non, ça va être impossible, il va être terrible. Et un jour, on a tourné une seule scène dans un couloir qui était très étroit et le caméraman a dû utiliser un caméflex. C'est un appareil qui fait du bruit, c'est-à-dire un appareil qui a une faible capacité. On peut le tenir à la main, il n'est pas lourd, mais il fait un bruit de moteur de casserole. Et évidemment, il faut doubler la scène qui a été tournée ainsi. Alors Michel Simon avait à dire deux ou trois phrases dans ce travelling à la main, tourné par cette caméra qui faisait beaucoup de bruit, et il s'est aperçu de ça après. C'est-à-dire qu'il a tourné la scène et avec beaucoup d'émotion, il découvrait Michel Galabru mort, et c'était une scène d'émotion. Et quand il a vu qu'il faudrait le doubler, ça, eh bien, il est devenu... Il a piqué une colère terrible. Et je crois que c'est la seule colère qu'il ait eue avec moi, c'est d'avoir osé tourner une scène d'émotion avec un caméflex. Vous voyez comme il était loin de notre époque.
L'enterrement de Michel Simon a été quelque chose d'atroce, puisque son fils a commis vraisemblablement l'erreur de vouloir que l'enterrement de Michel ait lieu à la Madeleine, où il pensait que, peut-être comme Maurice Chevalier également, il y aurait un monde fou, etc. Il y avait très très peu de monde, il y avait on les comptait sur les deux doigts de la main, il y avait 10 comédiens à peu près, ou 10 personnes du spectacle, dont Michel Serrault, Blanchette Brunois, Lars Schmitt, Jean-Pierre Mocky, quelques autres, enfin Roland Le Saffre, il y en avait, je vous dis, une dizaine, et il y avait très très peu de monde dans l'assistance. Il y avait la dernière personne avec laquelle il s'était marié, disait-il, en Russie, Karen, qui a fait une entrée spectaculaire sous les caméras de la télévision, etc. Il y avait quelque chose d'atroce, de bouffon dans cet enterrement, parce qu'il y a des gens qui avaient une réelle douleur, à commencer par François qui menait l'enterrement et tout, et en même temps cette église de la Madeleine totalement vide. Et on s'est aperçu, parce que déjà ça avait commencé, que Michel Simon, qu'on le veuille ou non, à l'époque était assez haï. Enfin, je veux dire, il a fini assez tristement. Et on a découvert que Michel Simon, qui, disons les choses comme elles sont, faisait la manche à la télévision, en réalité est mort milliardaire. Mais ça faisait partie du jeu absolument extraordinaire de Michel Simon, du mépris aussi dans lequel il entrait. Bon, c'est vrai qu'il détestait pratiquement tous ses semblables, à l'exception d'un nombre très très limité de personnes. Et il y avait un jeu, une perversité, une jouissance fantastique chez lui à se savoir milliardaire et à jouer les pauvres clochards, les pauvres vieux qui n'avaient plus rien pour vivre. Donc posséder une dernière fois le public était pour lui certainement une très grande jouissance.
C'est quelqu'un qui est multiple et dont on ne connaît plus d'exemple actuellement, ce genre de personnage. Il représente un peu un passé archaïque où chaque personne avait une identité profonde, où elle avait un accent, elle charriait tout un paysage, et lui c'est un peu le cas.
Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'acteurs comme lui actuellement?
Disons que dans un sens on peut dire qu'un acteur comme Gérard Depardieu est un peu un descendant par sa masse, par son côté parfois bourru, parfois précieux. Mais il a moins de subtilité que Michel Simon et moins de versatilité. C'est quand même plus un acteur professionnel au sens un peu mercenaire du terme qu'une vraie nature. Quoi. Parce que Michel Simon, il n'y a pas eu de personnage de cinéma qui soit plus une nature que Michel Simon. D'autre part, moi, je voulais dire qu'il y avait quand même un acteur qu'on pourrait assimiler à Michel Simon par son côté un peu démesuré et erratique. C'est Denis Lavant, qui est un acteur qu'on a surtout vu dans les films de Léos Carax, dans les trois films de Léos Carax, dont le dernier, Les Amants du Pont Neuf, qui a aussi ce côté très physique, tout en n'étant pas aussi massif, évidemment. Qui a un côté très physique, qui a un visage très expressif et presque laid, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a une force de une sorte de folie qu'avait aussi Michel Simon. Donc, dans un sens, Denis Lavant, c'est quelqu'un qui peut s'approcher de cette école.
Peu de temps avant sa mort, où il était à cet hôpital de Brie-sur-Marne avec une vieille chemise absolument déchirée, les cheveux fous, l'air hagard, enfin il avait perdu un peu la raison et tout, il allait mourir quelques jours après, mais c'est vraiment, c'est plus que le roi lire, enfin ça vous tire des larmes.
C'est presque Falstaff.
Oui aussi, enfin je veux dire, mais il était shakespearien, il était dostoïevskien, il n'était pas moliéresque, il détestait Molière, mais je veux dire, c'était un personnage évidemment d'une dimension, d'une ampleur d'un tragique complet, parce que je veux dire, c'est vrai qu'on mourait de rire avec lui, parce qu'il avait un humour extraordinaire. Il racontait, Michel était un fantastique conteur, on passait des heures entières à l'écouter. Quand il racontait une histoire que vous et moi mettrions 3 minutes à raconter, il mettait 1 heure, mais on était pliés de rire. C'était, il jouait tous les personnages, il était d'une férocité, d'un humour terrible, enfin il savait, il voyait le moindre défaut, il les imitait, c'était un merveilleux imitateur, et en même temps c'était un personnage d'un tragique absolu. Moi je n'ai jamais vu quelqu'un aussi tragique que lui, et de tous les gens que j'ai rencontrés, enfin j'en ai pas rencontré énormément, mais j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi seul que lui, c'était la solitude absolue.
Mardi du cinéma, Michel Simon ou les jubilations d'un anarchiste, par Pascal Lismonde.
Mais qu'est-ce que vous avez donc tous avec l'amour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime, moi?
Avec Denise Dax, comédienne, Claude Gauter et Jean-Marc Loubier, auteurs de biographies sur Michel Simon, et Vincent Ostria, des Cahiers du cinéma.
Monsieur Marny est un pignouf. Monsieur Marny m'a gravement offensé en déclarant à maintes reprises devant mes camarades que je n'avais jamais eu le moindre soupçon de talent.
Et les voix d'Arletty, de Sacha Guitry, de Jean-Pierre Mocky, de Jean Renoir et de Michel Simon lui-même. Archivina, Yves Builly.
Un artiste, c'est merveilleux. Quelle belle vie tu as dû avoir.
Ça pour une belle vie.
Tu avais du talent?
Eh bien, mon Dieu, la main sur la conscience, je peux dire que je n'étais pas trop mal. Seulement, voilà, on n'aimait pas ma tête à Paris. Ça m'a fait du tort.
Tu jouais le drame ou la comédie?
Je pouvais jouer les deux. Seulement voilà, je ne jouais jamais. Dans les grands théâtres, les grosses vedettes ont toujours une doublure, des fois qu'elles tombent malades. Eh bien moi, toute ma vie, j'ai doublé quelqu'un qui n'était jamais malade. Il avait une santé de cheval, l'animal. Le froid, la grippe, les épidémies, rien ne pouvait le ficholer. Alors moi, je ne jouais jamais, tu comprends? Je ne suis pas devenu très célèbre.
Mixage, Yann Parentoen, Françoise Prudon, réalisation, Josette Collin.
Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 1993.